première question, comment allez-vous, Maëva et Hugo ?
Salut, ben ça va super. Et toi, Maëva, tu vas bien ?
ouais, ça va. Bah, toujours, des périodes juste avant que l'album sorte, c'est toujours un peu questionnant. Je crois que je l'ai vraiment très, très envie aujourd'hui que... l'album ne m'appartienne plus, qu'il fasse sa vie un peu sans nous là, parce que ça fait quand même plus d'un an et demi maintenant qu'il nous appartient.
Ouais.
Et je crois que là, on a juste envie que les gens se l'approprient et qu'il fasse sa vie tout seul, quoi, qu'il parte de la maison et que ce soit un grand garçon. Donc
t'es stressée, excitée, tu as peur.
C'est quelle émotion ? Ouais, un peu tout ça en même temps. J'avoue que hier soir encore, j'ai réécouté l'album. Ça faisait longtemps que je l'avais pas réécouté en entier. Et juste peut-être pour me rassurer, je sais pas, c'est toujours assez troublant. Et je l'ai réécouté, je me dis, ah, c'est quand même un bête d'album, j'en suis quand même vachement fière. mais voilà, il y a toujours ce truc-là de très très envie qui sorte et très stressé. Et je sais que voilà, je vais me faire des petites remontées acides 2-3 jours avant que ça sorte, ça va bien se passer. Mais
ouais, Maëva, elle est beaucoup en roller coaster avant une sortie d'album, elle a un gros doute, elle remet tout en question.
Ouais, voilà.
Du coup, c'est vrai qu'il faut la rassurer. Alors que moi-même, hein, je suis pareil qu'elle, mais je dirais.
T'es le taiseux de l'histoire, en fait, c'est ça?
Ouais, non, c'est pas ça, c'est que j'essaie de garder le verre à moitié plein dans un mindset positif parce que, effectivement, c'est toujours flippant, surtout que là, c'est notre second album.
Et oui.
Donc, il y a toujours un truc, un peu une pression quand le premier album a une jolie presse. Donc là, on aimerait que briser ce plafond de verre, elle est encore plus loin. Donc, c'est toujours un. Voilà, il y a des gros objectifs et la musique, c'est pas évident, c'est de moins en moins évident. Bon, je vais pas faire de la politique, mais voilà, il y a de l'argent de la culture, tout ça, tout ça.
Ouais.
Mais d'élections, enfin bref, voilà, il y a tout ça qui fait un peu peur aussi. Donc voilà, on se bat, quoi.
Voilà, mais j'ai le côté drama queen du groupe, en tout cas.
Et on adore, super. Alors, la première question que j'avais pour vous, c'est au sujet du titre de l'album qui amène deux notions. Il y a la course contre le temps et puis le secret. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression cavalcade, pardon, ce que la nuit ne dit pas?
Quand j'ai commencé à réfléchir à Cavalcade, c'est un titre qui est venu assez rapidement. C'est le titre d'une chanson qu'on n'a pas choisi de mettre dans l'album en finalité. Donc la première fois que j'ai un peu dézoomé sur toutes les thématiques abordées par cet album-là, j'ai eu l'impression que effectivement il était question de fuite en avant. Je crois que parce que j'ai eu 30 ans cette année, j'ai un peu fait le topo de ces 10 dernières années qui venaient de passer, parce que voilà, ça fait notamment 10 ans avec Hugo qu'on se côtoie, qu'on se connaît désormais. Et j'ai eu besoin, je crois, de regarder un peu dans le passé, voir ce qui avait été et de regarder aujourd'hui ce qu'il en est. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec Bandy et avec Hugo, on a toujours effectivement... eu cette idée, on a toujours vécu notre vie dans cette idée de cavalcade, parce que la cavalcade, c'est la chevauchée incontrôlée, et c'est un peu qui l'on est au quotidien, à savoir, voilà, on va traverser les choses, on va vivre les choses avec passion, toujours énormément d'intensité, dans le bon comme dans le mauvais, mais pour autant, toujours se relever, et pour autant, toujours croire en des jours meilleurs, et en se sentant presque reconnaissant parfois des périodes un peu plus tragiques, un peu plus dures. Et donc, il est vraiment question de ça. Et ce que la nuit ne dit pas est arrivé ensuite, parce qu'il se trouve que cet été, j'ai écrit un recueil de poèmes, donc qui porte ce nom-là, ce que la nuit ne dit pas. Et pour moi, l'épopée Bandy Bandy était quelque chose de très nocturne depuis le début. Il est dans l'image, dans le son, la matière, dans tout ce qu'on adorait mettre dans l'univers Bandy Bandy. C'est quelque chose de très nocturne. Et je crois que ces 10 années qui se sont passées ont été une sorte de rassemblement, de nuit composite à travers lesquelles on s'est posé énormément de questions. On a aussi évolué parce que voilà, Hugo avait 24 ans quand je l'ai rencontré, il en a aujourd'hui 34, même 35.
Je suis passée
de mes 20 à mes 30 ans, ce qui n'est quand même pas rien, quoi. C'est une première partie de la vie d'adulte. Et donc, de ces nuits composites sont sortis énormément de questionnements. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui, sans trop m'avancer, qu'on a commencé peut-être à trouver quelques clés de réponse, sans pour autant être bien certain de où on va et de qui l'on est tout à fait. Mais en tout cas, on a commencé à trouver quelques réponses à nos questions qui ont été posées durant toutes ces nuits-là, quoi. Donc voilà, il y a vraiment question de ça, quoi.
Et pour le côté plus pragmatique, en gros, Maëva sort un recueil de poèmes en parallèle de l'album Cavalcade. mais ce sont des poèmes qui font écho à des texte de l'album directement, entre autres. Quoi.
Ouais. Oui, j'allais poser cette question un peu plus tard, mais puisqu'on y est, abordons-le. Oui, est-ce que justement le recueil de poèmes que tu as écrit, Maeva, c'est à partir de chutes, c'est un mot qui est moche pour qualifier ce que je veux dire, mais je pense que tu comprends. Est-ce que c'est ce que tu n'as pas gardé pour l'album aussi qui se trouve dans ce recueil de poèmes?
Non, du tout.
D'accord.
Alors, je pense que... Alors, comment dire? C'est peut-être plutôt une réponse en demi-teinte, sachant que j'ai vraiment découvert à travers la poésie en prose, du coup, parce que c'est de la poésie en prose, un espace de liberté beaucoup plus conséquent que dans le format chanson pop, qui est quand même un peu plus contraignant, parce qu'il faut que ça aille vite, il faut que les gens comprennent assez rapidement de quoi on parle. Il y a voilà, les structures, couplets, refrains, et éventuellement pont. Et donc, il y a effectivement quelques chansons qui font écho totalement à certains titres de l'album, comme les Chambres fermées, Corps étranger, ou encore Message pour eau. Donc, ils m'ont permis d'aller effectivement plus loin dans ce que je voulais raconter dans ces chansons-là, effectivement. Mais il y a effectivement aussi d'autres textes qui poussent plus loin la réflexion de ce que la nuit ne dit pas. Pour moi, Cavalcade, ce que la musique dit pas, l'album est un album plus introspectif, mais aussi un album plus personnel, je dirais. Ce qui est bizarre, sachant qu'on s'est toujours assez raconté, enfin, c'est toujours beaucoup raconté à travers nos textes. Mais je crois que lors de l'écriture de celui-ci, il y a vraiment eu une sorte de révélation en moi en tant qu'autrice.
Ouais.
J'ai pris beaucoup plus de place dans la manière dont je voulais raconter les choses. Et du coup, j'ai eu besoin de donner un peu plus d'élan à cette envie-là. Donc, le recueil a été quelque chose d'assez logique, finalement, même si ça a été un travail tout à fait différent et auquel je me suis confrontée totalement seule et lors de longues nuits d'insomnie. ça a été assez bénéfique et assez troublant parce que pas si simple. Et je suis allée creuser un peu plus loin à l'intérieur de moi, quoi, en tout cas.
Et justement, dans le cadre de cette intimité que tu partages dans l'album et que vous partagez dans l'album, tu es vraiment toute seule à piloter tout l'aspect texte et les thématiques, etc. Ou justement, tout ton groupe en fait t'accompagne dans cette recherche aussi?
Alors, il faut savoir que les deux têtes pensantes du projet sont Hugo et moi.
Oui.
Qu'avec Hugo, on parle toujours énormément de tout, à savoir de la création, que ce soit de la musique, du texte ou de la DA artistique, tout ça. Mm-hmm. Il est toujours question de nous deux. Pour cet album-là, il se trouve que Hugo, qui est très, très, très prolifique, est déjà venu avec moi au tout début. Donc, il y avait des premières prods qu'il faisait dans son appartement. Puis après, on se voyait, on en parlait, on retouchait. Hugo est venu avec des envies de thématiques, ce qui était super parce que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait.
En fait, je prends un petit peu la parole. En fait, c'est vrai que pour le coup, l'état des lieux, c'est qu'on avait écrit beaucoup de chansons, Maeva et moi, c'est notre deuxième album. Et on voulait surtout pas qu'il y ait de redites, donc ça a demandé à notre travail. C'est-à-dire que souvent, on était un peu plus dans la spontanéité des textes qui venaient à nous. Là, on était un petit peu en mode cadre de travail. On a commencé en couple, on s'est séparés, donc on se voyait vraiment pour travailler. Et donc, on avait un cadre de travail très précis où on avait des thèmes et on écrivait à quatre mains sur certains thèmes.
D'accord.
Ou alors, il y avait des textes que Maeva écrit de son côté et parfois moi de mon côté. Et voilà. Et pour le travail plus musical, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais il y a aussi une nouveauté pour cet album-là, c'est qu'il y a une troisième personne qui nous a aidés, qui a co-composé des titres avec nous, qui s'appelle Lionel Buzac. Donc, nous sommes allés à La Rochelle pour écrire certains titres, donc les moitiés de l'album. Et ça aussi, c'était un peu une nouveauté. Et je pense qu'on avait besoin de changer un petit peu notre manière de procéder au vu simplement aussi du fait qu'on n'en habite plus ensemble, qu'on ne soit même plus dans la même ville. Donc, il a fallu qu'on ait des cadres de travail comme ça. Et ça a été... Ça a été une réussite.
Ouais, voilà.
Oui, et puis surtout la nouveauté, en plus du fait qu'on est effectivement inclus, donc Lionel, dans la co-composition, c'est que quand on allait chez lui en studio, parce qu'il a un home studio qui est super, et c'est qu'on y allait avec des envies, mais sans matière.
Ouais.
Et on se pointait dans son studio, on ouvrait tous les instruments, il y avait tout qui était ouvert, Et c'était de l'ordre de on y allait sans rien, quoi. Donc on commençait comme ça, des accords, et puis les choses se montaient petit à petit, et des fois il y a eu des révélations absolues, ouais. Notamment 6 titres qui se trouvent dans l'album aujourd'hui et qui sont largement nos préférés, je crois. Et il y a eu des moments un peu comme ça, d'épiphanie, où on écrit un titre, et moi dans la foulée, en 15 minutes, j'écris un texte, et il se trouve que c'est quasiment le texte définitif. Donc,
ouais, donc une effusion qui est sortie, ouais. Quoi. C'est...
Ouais, il y a vraiment eu des espèces de fulgurances, et c'était vraiment, vraiment chouette, quoi.
Très bien. Eh bien, tu voulais parler de la partie musicale, justement. Donc, on a commencé donc, avec le cadre, finalement, le protocole, le laboratoire dans lequel vous avez créé cet album. Quelles étaient les influences qui ont un peu piloté, ou en tout cas, qui ont été des références pour vous pour façonner ce nouvel album ?
Alors, chacun a ses propres influences. C'est vrai que, du coup, on se fait pas mal découvrir de choses avec Maëva. Mmh. Mais moi, j'étais quand même dans une période de revival des groupes que j'écoutais plus jeune. Ouais. Je pense que, parce que la musique aussi rock revenait dans cette espèce de cycle un peu 90s, fin, ouais. 90s, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et donc, j'ai beaucoup écouté les Pixies, les Smashing Pumpkins, ce genre de groupes, et des groupes plus actuels comme Wet Leg, Royal Otis, où on a beaucoup aussi évoqué Fantas DC, qui venait de sortir leur album quand on était en train d'écrire, et qui a quand même une patte très 90s, justement,
sur
cet artiste. Et voilà, on est vraiment ravis que cette période soit au renouveau, à la mode, entre guillemets, parce que... Bah,
En dehors même des références, il était question surtout de son, je crois, et de texture. Ouais. Et par rapport au premier album, 11h11, qui était beaucoup plus trigué, avec des prods très serrés, très synthétiques, on avait envie d'un retour à quelque chose de plus aéré, plus organique, avec des batteries, avec des belles rooms, quelque chose de très boisé. Et on avait envie de quelque chose qui respirait beaucoup plus, en tout cas.
Ouais.
Oui, et puis après, dans la manière d'écriture, c'est vrai qu'on a toujours eu la même, entre guillemets, le fil rouge, c'est le rock et la chanson française.
Ouais.
Donc après, le curseur chanson, le curseur rock, ça se place différemment suivant la chanson, mais il y a des titres qui peuvent être très sombres, des titres plus solaires, il y a des jolies ballades assez, chansons 70s limite, tu vois.
Ouais, ouais,
et,
ouais.
Et des trucs, voilà, plus 90s et modernes. Et voilà, c'est toujours été ça, Bandit, ce espèce d'alternance entre la chanson et le rock, quoi, ce qu'on met en avant, quoi.
Et quel est le titre ou les titres, quels sont les titres que vous avez hâte d'interpréter sur scène?
Ah, c'est dur, ça.
Eh oui, je sais, c'est toujours tricky.
On a déjà commencé un petit peu cet été à tester des titres, donc c'était assez cool. Et là, on sort d'une résidence, la première date arrive là, donc la tournée commence en mars, donc... Déjà, le premier single, Pas le temps, parce que c'est un côté un peu banger rock qui avance, qui me fait du bien. Puis à la fois, il y a d'autres moments. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est la nuance. Il y a un titre balade qui s'appelle Opaline, qu'on aime beaucoup tous dans le groupe, avec un piano. Et celui-ci aussi a une autre couleur. Et c'est difficile d'en choisir un seul, mais en tout cas, ça dépend le mood. Ça va dépendre de la soirée, peut-être aussi.
Ouais.
C'est
ouais.
Chouette. Je sais pas, Maëva, toi, t'as une préférence?
Moi, je crois que dans cet album-là, il y a un titre qui s'est un peu démarqué. J'adore Rien attendre pour son côté très haut en intensité, puis après très mélancolique dans la voix. Mais Pression artérielle, c'est un titre que j'adore, bizarrement, que j'aime vraiment beaucoup écouter. Et là, de l'avoir vu évoluer en live... Et notamment avec la scéno, parce que ça y est, on a une vraie scéno comme des grandes personnes. il va être trop beau. Et j'ai très, très hâte de ça. Pour toi aussi, pour toi, qui est la balade qui clôture l'album.
Ouais.
Avec une dimension live beaucoup plus intense que j'adore.
Ouais.
Mais, il y a quand même seulement cette fois qui va être un peu le gros single de l'album. Et ensuite, celui-là, j'aimerais qu'on me repose la question dans des mois, parce que...
Bien sûr que ça change.
Si les gens le choisissent comme single, en général, c'est celui aussi qui fonctionne bien en live, en général.
Eh oui, ouais, ouais.
Donc, on aime bien quand les gens y kiffent, quoi.
Et puis, je pense qu'il y a un truc d'énergie, comment toi, tu te sens sur scène aussi, dans quel mood t'es ce jour-là, et où tu vas mettre ton énergie. Ouais, en général, ça change, il y a des périodes, donc c'est un peu tricky comme question.
Et puis, vu que la tournée n'a pas commencé, c'est toujours délicat de savoir quel titre on va faire jouer. Je sais que sur la tournée de 11h11, ça a pas mal évolué, surtout parce que, après, ce sont les gens qui choisissent leur titre préféré.
Bien sûr.
Et c'est toujours hyper jouissif de commencer un titre et d'avoir une réaction immédiate, quoi.
Bien sûr. On va parler storytelling maintenant. Alors, tu disais tout à l'heure, Maëva, que vous aviez toujours eu l'habitude de vous raconter. Moi, je suis assez surprise de cette chose-là, parce que c'est vrai, quand on a des amis artistes ou qu'on on est un peu dans ce milieu-là, on entend souvent qu'il ne faut pas dire l'intimité, surtout quand il y a un couple au milieu. Quand on est amis, ça passe, mais quand c'est un couple, c'est compliqué. Et là, vous, vous racontez donc le couple et puis la sortie du couple. Est-ce que finalement, cet album, c'est l'histoire d'une transformation de la relation, plutôt quelque chose qui démarre et qui s'arrête? Ah voilà, c'est ça, pardon. Oui, oui. Est-ce que plutôt que ce soit quelque chose qui démarre et qui s'arrête, ça peut être quelque chose qu'on transforme et du coup, on revient à ce fil rouge de la libération qui est vraiment marqué dans cet album?
Ben, en tout cas, si on a choisi de se raconter comme ça, déjà c'est pour plusieurs raisons, c'est parce que c'est pour éviter les questions gênantes des intervieweurs, parce que ça nous est arrivé sur l'album précédent. Et non, c'est tout simplement parce que c'est un sujet, on se raconte en musique, ça parle de ça aussi, il y a beaucoup de textes qui parlent de ça.
Oui.
Typiquement, le titre « Pour toi » qui clôture l'album, c'est un titre que pour le coup, j'ai écrit la semaine de la séparation avec Maëva. Mm-hmm. Et on a volontairement pas voulu toucher au texte pour ce truc hyper brut.
Ouais.
Et c'est vraiment le cœur qui parle à ce moment-là. Donc, en fait, le titre parle de ça, donc... Je pense que nous, si on fait de la musique, c'est surtout pas pour se cacher.
Ouais.
Et les personnes que nous sommes sur scène sont une partie de nous. On joue pas des personnages.
Ouais.
Donc je sais pas. Je pense qu'on est des personnes entières. Donc c'était pour nous assez évident de. Ça aurait été encore plus étonnant de ne pas en parler, je pense.
Ouais.
Même en dehors de ça, pour nous, la musique a toujours quand même été très thérapeutique.
Oui.
Aux différentes temporalités de notre relation. Qu'on ait été en train de se séparer ou définitivement plus ensemble, je crois que la musique nous a toujours aidé à communiquer quand parfois on peinait à se dire certaines choses et qu'on a toujours su, en tout cas, se raconter ces choses-là peut-être par pudeur, mais en tout cas, via des textes, via des chansons. Et ça a toujours quelque chose qui a fait partie intrinsèque de qui l'on est et de notre manière de communiquer, toi et moi, quoi. Donc,
Ouais. Et en tout cas, oui, du coup, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est un truc qui s'est transformé. On dit souvent, maintenant, ça fait 3 ans et demi, bientôt.
Ouais.
Donc, ça commence à faire. Il y a une tournée derrière. Donc, les choses qui se sont vraiment cicatrisées. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. Et voilà, c'est assez étonnant, mais on a l'impression parfois d'être comme des frères et sœurs, parce
ouais.
qu'on travaille encore ensemble, on se chamaille beaucoup, et voilà, donc l'amour a évolué, c'est ce qu'on dit, voilà, donc ça a transformé, effectivement.
Très bien. Alors, quelles sont les prochaines dates dont vous pouvez nous parler, qui sont des grands temps forts pour vous, là, qui arrivent?
Des grands temps forts, dans le sud déjà, il y a un festival qu'on aime beaucoup, et d'ailleurs c'est marrant, parce que même dans notre histoire avec Maëva, on y allait à chaque fois, c'est This Is Not a Love Song,
oui.
Festival Nîmes à Paloma.
Mm-hmm.
Dans le sud, il y a aussi Marseille, comment il s'appelle cette
L'Espace Julien.
L'Espace Julien, d'accord.
Le Trianon à Paris, évidemment, en novembre.
Oh là là.
5 novembre.
Mm-hmm.
Je sais pas, Lyon aussi, parce que moi j'habite Lyon, donc au marché Gare, le 7 mai.
Très bien. Vous avez hâte.
Important. Comment dire, j'aime pas faire de.
Ouais, on n'aime pas trop choisir les dates, mais on a vraiment juste qu'une envie, là, c'est rider la France de nouveau.
Ouais,
c'est
on
ne
va pas faire de favoritisme des concerts.
Ouais, ouais.
Mais bon, je vais volontairement parler de celle du Sud, vu que Rage diffuse dans le Sud. Mais,
Bien sûr. Non, mais c'était plus en termes de, en fonction des salles, etc., et des salles qui nous accueillent, on peut mettre un décor, on a tout le groupe, on a aussi toute la formation, on n'a pas besoin de sacrifier l'ingé light pour que l'ingé son puisse venir, ou ce genre de choses. Et est-ce qu'il y a une salle où vous savez que vous avez tout et vous êtes trop content parce que le live tel que vous l'avez dessiné va exister?
La chance qu'on a pour cette tournée pour l'instant, mais Inch'Allah ça reste comme ça, c'est qu'on a toute l'équipe tous les soirs, donc la scénographie sera là tous les soirs.
Génial.
Ça ne changera pas. Donc voilà, après c'est vrai que le Trianon, c'est bon, j'aime pas du tout faire de favoritisme.
Bien sûr, bien sûr.
C'est quand même une salle magnifique.
Mm-hmm.
Enfin, voilà. C'est pour tout vous dire, moi, ma salle préférée de Paris, je crois que toi aussi, mais non, elle est vraiment
moi,
sublime.
Je préfère un peu la cigale. Je suis moins moulure, tu vois, bizarrement, et balcon.
Ok. Bon.
Elle est moins moulure.
Elle est moins moulure. Très bien. Non, mais voilà. Enfin, tu vois, en tout cas, nous, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de favoritisme. On est dans le même concert. Et on se donnera à 200%, quoi qu'il arrive. Voilà.
Et ben, je vous remercie beaucoucoup, Maëva Hugo, d'avoir été avec nous sur Rage.
Merci
avec
à toi.
Plaisir.
À bientôt.
Salut.
Salut.